Les lois prohibitives ont tendance à renforcer ce qu'elles voudraient interdire. C'est le point sensible dont toutes les professions juridiques de l'histoire se sont servies pour assurer la stabilité de leurs fonctions. Coda Bene Gesserit. Lors de ses infatigables tournées dans le secteur central, moins fréquentes ces derniers temps, mais bien plus exigeantes pour cette raison même, Odrade était à la recherche du moindre signe de laisser-aller, particulièrement dans les domaines de grande responsabilité où les choses semblaient fonctionner trop bien. La doyenne des chiens de garde avait sa manière à elle de décrire cela. « Montrez-moi un secteur où tout fonctionne à merveille et je vous montrerai quelqu'un qui cherche à couvrir des bavures. Les vrais navires tanguent. » Elle le répétait souvent et c'était devenu chez les sœurs, et même chez certaines acolytes, un leitmotiv utilisé pour identifier la mer supérieure. Les vrais navires tanguent, et rires étouffés. Ce matin-là, Beyonda accompagnait Odrade dans sa tournée matinale, sans faire remarquer que le « une fois par mois » était devenu « une fois tous les deux mois », et encore. La présente inspection était en retard de 8 jours. Bey comptait bien mettre l'occasion à profit pour réitérer ses avertissements au sujet d'Idaho. Elle s'était assurée pour cela les bons offices de Tamalan, bien que celle-ci fût censée jouer pour la circonstance le rôle d'inspectrice auprès des rectrices. Deux contre une ? Se demandait Odrade. Elle était presque sûre que ni l'une ni l'autre ne se doutait encore de ce qu'elle avait en tête. Elle finirait pourtant bien par l'apprendre, comme cela s'était passé avec le grand projet de Taratza. Chaque chose en son temps, pas vrai, Tar ? Elles arpentaient les corridors l'un après l'autre dans le froissement pressé de leurs robes noires. Pratiquement rien n'échappait à leurs regards. Tout leur était familier. Et cependant, elle guettait impitoyablement le moindre détail susceptible de trancher par sa nouveauté. Odrade portait son microcom accroché à l'épaule gauche comme le lest déplacé d'un plongeur. Ne jamais se laisser surprendre sans dispositif de communication par les temps qui courent. Dans les coulisses de n'importe quel centre Bene Gesserit, on trouvait toute l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement. Hôpital, cuisine, morgue, gestion des ordures, système de retraitement des déchets, en liaison avec la gestion des ordures et des eaux usées, transport et communication, approvisionnement des cuisines, salle de sport et d'entraînement physique, salle de cours pour les postulantes et les acolytes, logement pour toutes les catégories, salle de réunion, laboratoire et locaux spécialisés de toutes sortes. Le personnel changeait souvent à cause de la dispersion et de la promotion constante de chacun à de nouvelles responsabilités selon les critères subtils du Bene Gesserit. Il y avait toujours de la place et une occupation pour tout le monde. Tandis qu'elles inspectaient rapidement secteur après secteur, Odrade parlait aux deux autres de la nouvelle dispersion sans chercher à dissimuler son amertume devant l'atomisation à laquelle était soumise la grande famille du Bene Gesserit.
« J'ai du mal à imaginer une humanité en expansion dans un univers infini, » dit Tamalan. « Les possibilités sont tellement... »
« C'est le jeu des nombres infinis ?» dit Odrade en enjambant une bordure de trottoir brisée. « Il faudra faire réparer ça. La vérité, c'est que nous jouons à ce jeu de l'infini depuis le moment où nous avons appris à sauter les replis spatiaux. »«
Cela n'a rien d'un jeu, »
fit Beyonda d'une voix lugubre. Odrade comprenait ce qu'elle ressentait. Nous n'avons jamais rencontré le vide absolu. Toujours des galaxies, puis d'autres galaxies. Tam a raison. La perspective du sentier d'or est démoralisante. Les explorations passées avaient fourni au Bene Gesserit un levier statistique sur la question, mais guère davantage. Tant de planètes habitables dans une configuration donnée. Plus tant qui pouvaient être terraformés.
Quelle évolution se prépare là-bas ?
Demanda Tamalan. Question à laquelle aucune d'entre elles ne pouvait répondre. Si l'on demandait à quoi pouvait conduire l'infini, la seule réponse acceptable était « à n'importe quoi ». Le meilleur comme le pire, le divin comme le démoniaque.
« Et si les honorés matriarches avaient fui devant quelque chose ?» demanda Odrade. « C'est une hypothèse intéressante, non ?»«
Ce genre de spéculation est parfaitement inutile, » grommela Beyonda. « Nous ne savons même pas si les replis nous introduisent dans un seul univers ou plusieurs, ou même encore dans un nombre infini de bulles perpétuellement en expansion jusqu'à ce qu'elles éclatent. »
« Le tyran en savait-il plus que nous là-dessus ? »
demanda Tamalan. Elles s'interrompirent quelques instants, tandis qu'Odrade passait la tête dans une salle où 5 acolytes de dernière année et une rectrice était en train d'étudier une projection sur les stocks de mélange à l'échelon régional. Le cristal contenant les informations effectuait une danse complexe à l'intérieur du projecteur, sautant sur son pinceau lumineux comme une balle au sommet d'un jet d'eau. Ayant pris connaissance des conclusions, Odrad se détourna pour froncer les sourcils. Tam et Bay ne virent pas son expression. Il faudra commencer à limiter l'accès aux données concernant le mélange. Elles sont trop déprimantes pour le moral de toutes.
Administrer. Tout reposait en dernier ressort sur la mère supérieure. Trop déléguer ses pouvoirs toujours aux mêmes personnes revenait à tomber dans la bureaucratie.
Odrad savait qu'elle comptait un peu trop sur son sens intérieur de l'administration. Un système fréquemment testé et révisé, ne faisant appel à l'automation que lorsque c'était indispensable. Elles appelaient cela la machinerie. Avant d'avoir atteint le statut de révérende mère, elles avaient toutes plus ou moins acquis une certaine forme de sensibilité à cette machinerie et prenaient par la suite l'habitude d'y avoir recours sans poser de questions. Là était le danger. Odrad s'efforçait chaque fois que la chose était possible d'introduire des changements, même minimes, dans leurs activités. L'aléatoire, l'absence de configuration absolue que d'autres pouvaient trouver et utiliser contre elle. Un individu donné ne remarquait peut-être pas de tels changements pendant la durée de sa vie, mais la différence sur de longues périodes était indubitablement mesurable. Odrad et ses compagnes débouchèrent dans l'artère principale du secteur central. Les sœurs l'appelaient entre elles « la voix rude », plaisanterie qui faisait allusion au dur régime d'entraînement populairement désigné par l'expression « la rude voix du Bene Gesserit ». La voie rude allait de la place située à la base de la tour d'Odrad jusqu'aux faubourgs méridionaux de l'agglomération, près de 12 kilomètres tracés au laser d'immeubles de hauteurs diverses. Les plus bas avaient pour caractéristique commune d'être assez solides pour supporter des extensions en hauteur. Odrad fit signe à un transport découvert où il y avait quelques places libres. Elles montèrent s'asseoir dans un endroit où elles pouvaient continuer à parler. Les façades de la voie rude avaient un charme désuet, se disait la mère supérieure. Des immeubles comme ceux qu'elle voyait ici, avec leurs hautes fenêtres rectangulaires de places isolants, avaient marqué les voies du Bene Gesserit à travers une grande partie de l'histoire des sœurs. Au centre s'alignait une rangée d'ormes génétiquement sélectionnés pour leur hauteur et leur profil mince. Des oiseaux y nichaient, et la matinée brillait de l'éclat intermittent des plumages rouges et orangés, loriot et tangara. Sommes-nous dangereusement conditionnés à préférer ces environnements familiers ? Odrad les fit descendre du transport au passage de l'ivrogne, en méditant sur la curieuse manière dont l'esprit Bene Gesserit ressortait dans les noms propres. L'humour des rues ? Le passage était ainsi nommé parce que les fondations d'un immeuble avaient un peu joué, donnant à l'édifice un aspect comiquement titubant. C'était le seul du groupe à ne pas être parfaitement aligné sur les autres. Un peu comme la mère supérieure. Seulement, elles ne le savent pas encore. Son microcom bourdonna alors qu'elles arrivaient en vue de l'avenue des Tours. « Mère supérieure ?» C'était Stregi. Sans s'arrêter, Odrad signala qu'elle était en ligne. « Vous m'avez demandé un rapport sur Murbella. Le centre Souk m'informe qu'elle est en état de commencer les cours prévus. Alors qu'elle commence ?» Odrad n'accorda qu'un bref regard aux constructions basses qui bordaient l'avenue des deux côtés.
Des travaux étaient en cours pour surélever l'une d'elles de deux étages.
Un jour peut-être il n'y aurait ici que des tours.
Et la plaisanterie, pour ce qu'elle valait, deviendrait sans objet. L'argument était que donner des noms aux rues répondait à un besoin purement pratique. Et que l'on pouvait aussi bien traiter par la dérision ce qui était pour le Bene Gesserit un délicat sujet de préoccupation.
Odrad s'arrêta abruptement, au milieu du trottoir encombré de monde, et se tourna vers ses deux compagnes pour leur demander « Que diriez-vous si je suggérais de baptiser nos rues et nos édifices du nom de nos sœurs disparues ?»«
Vous êtes en plein non-sens aujourd'hui, » accusa Bayonda. « Elles ne sont pas exactement disparues, » fit remarquer Tamalan.
Odrad se remit en marche. Elle s'était attendue à ses réactions. Elle entendait presque le commentaire intérieur de Bay. « Nous portons avec nous nos sœurs disparues dans la mémoire seconde. » Odrad n'avait pas envie de discuter de cela ici en pleine rue, mais elle trouvait que son idée n'était pas dépourvue de mérite. Un certain nombre de sœurs mouraient sans pouvoir partager. Les lignées mémorielles majeures étaient sauvegardées, mais on perdait un fil avec la dépositaire disparue. C'était ainsi que Shfangyu, de la citadelle de Gameux,
avaient été perdues lors d'une attaque des honorés matriarches. De nombreuses mémoires demeuraient cependant dépositaires de ses qualités et de ses complexités. On hésitait à dire que ses erreurs étaient plus riches en enseignements que ses succès. Beyonda accéléra le pas pour se retrouver à la hauteur d'Audrade, sur une portion de trottoir relativement déserte.
Il faut que je vous dise un mot à propos d'Idaho. C'est un mentat, certes, mais dans la mesure où il a conservé le souvenir de toutes ses vies multiples, il peut être éminemment dangereux.
Ils passèrent devant un établissement mortuaire. La forte odeur d'antiseptique flottait jusque dans la rue. L'entrée en arcade était demeurée ouverte.
« Qui est mort ?»
demanda Audrade, ignorant l'impatience de Beyonda.
« Une rectrice de la section 4 et un jardinier qui s'occupait de l'entretien des vergers, » répondit Amalan.
Elle était toujours au courant de ces choses-là. Furieuse d'être ainsi ignorée, Beyonda, qui ne faisait rien pour cacher sa réaction, s'écria
« Ça ne vous dérangerait pas, toutes les deux, de vous occuper d'abord du principal ?»«
Quel principal ?»
demanda Audrade d'une voix très douce. Elles débouchèrent sur l'esplanade méridionale et s'immobilisèrent derrière un parapet de pierre pour contempler la vaste perspective des plantations, essentiellement des vignes et des vergers, qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. La lumière du matin créait un halo que rien n'apparentait aux brumes atmosphériques nées de l'humidité.
« Vous savez bien quel principal !»
persiste Abeille, refusant de se laisser dévier d'un pouce. Audrade regardait le paysage en s'appuyant au parapet. Le contact de la pierre était glacé. Elle avait l'impression que le halo avait déjà changé de couleur. La lumière solaire formait à travers la poussière un spectre de diffusion différent. La clarté était plus cristalline, plus définie. L'absorption n'était pas la même. Le nimbe était plus serré. La poussière et le sable en suspension s'insinuaient dans les moindres fissures à la manière d'un fluide. Mais les bruits de frottement et de crissement trahissaient leur nature. Comme dans l'insistance de Bey. Manque de lubrification.
« C'est la lumière du désert, »
murmura Audrade en tendant le doigt.
« Cessez donc de m'ignorer, » fit Beyonda.
Audrade choisit de ne pas répondre. La lumière chargée de particules était quelque chose de classique, mais nullement réconfortant à la manière des anciens maîtres qui peignaient leurs petits matins embrumés. Tamalan s'avança aux côtés d'Audrade.
« C'est très beau dans un sens. »
Son intonation lointaine disait que sa mémoire seconde lui suggérait des comparaisons analogues à celles d'Audrade. Si l'on a été ainsi conditionné à rechercher la beauté. Mais quelque chose de profond à l'intérieur d'Audrade lui soufflait qu'il ne s'agissait pas exactement de la beauté après laquelle elle soupirait. Les coteaux qui se succédaient sous leurs yeux en contrebas avaient été naguère d'un vert resplendissant. Aujourd'hui, ils étaient desséchés, comme si la terre avait été saignée à la manière dont les Égyptiens de l'Antiquité préparaient leur mort. Déshydratés, réduits à leur plus simple expression matérielle, préservés pour toute l'éternité. Le désert dans le rôle de maître de la mort, enveloppant la terre de natron, embaumant notre merveilleuse planète avec tous ses joyaux cachés. Beyonda derrière elle grommelait et secouait incessamment la tête, refusant de regarder ce que leur planète allait bientôt devenir. Audrade fut presque secouée par un frisson, tandis qu'un flot simultané s'emparait de ses pensées à l'improviste. Elle était en train de fouiller les ruines du siège Taber. Elle découvrait les cadavres, momifiés par le désert, des pirates de l'épice abandonnés sur place par leurs assassins. Où est le siège Taber à présent? Une coulée de magma solidifiée, sans rien pour rappeler sa glorieuse histoire. Ces honorées matriarches, elles assassinent l'histoire.
Si vous refusez d'éliminer Idaho, « Laissez-moi protester contre l'utilisation que vous en faites en tant que mentat. »
Bey était tellement tatillonne. Audrade se fit la réflexion qu'elle accusait plus que jamais son âge. En ce moment même, elle avait sur le nez des verres pour la lecture. Il lui grossissait les yeux et lui donnait l'air d'un poisson au globe protubérant. Le fait d'utiliser des verres correcteurs au lieu de prothèses plus discrètes en disait long sur elle. Elle affichait une vanité à l'envers qui proclamait « Je suis plus forte que les appareils dont mes sens défaillants auraient besoin. » Beyonda était visiblement irritée par la mère supérieure.
« Pourquoi me dévisagez-vous de cette façon ?»
Audrade, qui venait brusquement de prendre conscience d'un point faible au sein de son conseil, porta son attention sur Tamalan. Le cartilage ne cesse jamais de se développer, et cela expliquait que les oreilles, le nez et le menton de Tam étaient devenus imposants.
Certaines révérendes mères corrigeaient la chose en agissant sur leur métabolisme ou en ayant régulièrement recours à la chirurgie esthétique. Tam refusait de se plier à de telles vanités.
« Je suis ce que je suis, c'est à prendre ou à laisser. »
« Mes conseillères sont trop vieilles, et moi, il faudrait que je sois plus jeune pour porter un tel fardeau sur mes épaules. » « Mais zut, ce n'est pas le moment de m'apitoyer sur moi-même. »
Il n'existait qu'un seul danger suprême, une action dirigée contre la survie du Bene Gesserit.
« Duncan est un merveilleux mentat, » dit-elle en parlant avec toute l'autorité de sa charge. « Mais je n'ai l'habitude d'utiliser aucun d'entre vous au-delà de ses capacités. »
Bayonda garda le silence. Elle savait quels étaient les points faibles d'un mentat. « Les mentats, » se disait Odrad. C'étaient de véritables archives ambulantes, mais quand on avait le plus besoin de leurs réponses, ils ne cessaient de vous renvoyer des questions.
« Ce n'est pas d'un nouveau mentat que j'ai besoin, » dit-elle. « C'est d'un innovateur. »
Voyant que Bayonda ne disait rien, elle ajouta
« Je libère son esprit et non son corps. »
« J'insiste pour qu'une analyse soit effectuée avant que vous ne lui donniez libre accès à toutes nos sources de données. »
Compte tenu des positions habituelles de Bayonda, la proposition était plutôt modérée. Mais Odrad ne s'y fiait pas. Elle détestait ces interminables séances d'analyse où les rapports des archives étaient épluchés un à un. Bayonda en raffolait. Bayonda, avec sa minutie d'archiviste, et ses explorations interminables dans des labyrinthes de détails inutiles et ennuyeux. Qui se souciait que la révérende mère X ou la colite Y préfère le lait entier ou le lait écrémé pour son petit déjeuner? Odrad tourna le dos à Bayonda et regarda le ciel en direction du sud. De la poussière. Nous passerions notre temps à tamiser encore plus de poussière. Bayonda serait flanquée de ses assistantes.
Rien que de penser à cela, Odrad s'ennuyait déjà.
« Plus d'analyse. »
Elle l'avait dit d'un ton un peu plus sec qu'elle ne l'aurait voulu.
« J'ai quand même mon point de vue, »
dit Bayonda d'un ton vexé.
« Point de vue ? » ?»«
Ne sommes-nous rien d'autre que des fenêtres sensorielles donnant sur le même univers, mais chacune avec son point de vue particulier ? »